Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 96, Daf Tzadik Vav. Bonne écoute et bon limoud.
On passe à Daf Tzadik Vav à Moudalev. Habrav Revé, quand est-ce que Rava a dit qu'il faut que la majorité de l'objet soit détruite pour que l'objet perde son statut et qu'il ne protège pas dans l'attente d'un mort? C'est lorsqu'il s'agit de grands objets. Veha bezoutre, et quand est-ce que Rava a dit qu'il suffit d'un trou qui puisse laisser passer une grenade pour que l'objet perde son statut et qu'il ne puisse plus protéger contre l'impureté du mort? C'est lorsqu'il s'agit de petits objets. Voilà pour le Daf Tzadik Hei. Shabbat Daf Tzadik Vav. On reprend Daf Tzadik Vav à Moudalev au milieu de la première ligne de la page. Amar Ravasi Shonin. Ravasi a dit, les Tanaïm ont enseigné une braïta. Klicheres shiuro bekones mashke. La première taille de trou pour faire perdre son statut d'objet à un récipient de poterie est de quoi laisser pénétrer l'eau. Tant que le trou n'a pas cette taille, le récipient peut même servir à sanctifier l'eau qui doit être mélangée avec la cendre de la vache rousse. Velo amru motzi mashke ela leinyan gistera bilvad. Ils n'ont dit la taille qui laisse couler du liquide qu'à propos d'un débris uniquement, qu'à propos d'un objet qui est déjà un débris et qui a l'impureté de débris, c'est là que s'il y a un tout petit trou qui laisse couler du liquide, il perd complètement son statut d'impureté. Maïtama, quelle est la raison de cette différence entre un récipient entier et un débris? Amar Marzutra Bered Rav Nachman, le fichen omrim have gistera le gistera. Marzutra, fils de Rav Nachman, a dit, puisqu'on ne dit pas « apporte un autre débris pour poser sous ce débris et recueillir ce qui en coule », par contre, pour un récipient entier, on apporte un débris pour recueillir ce qui en coule, même s'il y a un tout petit trou comme cela, et il faut qu'il y ait un plus grand trou, un trou suffisant pour faire pénétrer l'eau si on pose l'objet dans de l'eau, c'est seulement là qu'il perd son statut si c'est un récipient entier. Nous avons vu au daf précédent que même Rabbi Shimon, qui considère ce qui pousse dans un pot percé comme attaché au sol en général, est d'accord qu'en ce qui concerne la préparation des aliments à devenir impurs en les lavant, les plantes qui poussent dans un récipient percé sont considérées attachées au sol et ne peuvent pas être préparées à devenir impures. Rava a dit que la taille du trou nécessaire à ce sujet est la taille d'une petite racine. Ici, on va voir un autre avis. Amaroula, pligebat re amorae bema'arava. Oula a dit, il y a deux amoraïm à l'ouest, c'est-à-dire en Israël, qui ont discuté au sujet de la taille du trou nécessaire dans le pot pour que les plantes soient considérées attachées et ne puissent pas être préparées à devenir impures. Rabbi Yossi ber Rabbi Avin ver Rabbi Yossi bar Zavda, ces deux sages sont Rabbi Yossi ber Rabbi Avin et Rabbi Yossi bar Zavda. Chadamar kemotzi rimon. L'un de ces deux sages a dit que le trou doit avoir la taille pour laisser passer une grenade, Vechadamar Keshoresh Katan, et l'autre a dit que le trou doit avoir la taille d'une petite racine comme Rava. Vesimanir, et ton repère pour ne pas te tromper et penser qu'il y a un avis que le trou doit avoir la taille qui laisse passer une olive, pour se rappeler que les deux avis sont extrêmes ici, la plus grande taille, celle d'une grenade, et la plus petite taille, celle d'une petite racine, et la Mishnah dans laquelle il est dit « Echad hamarbe ve'echad hamamit » autant celui qui multiplie que celui qui diminue. C'est-à-dire qu'il y a ici un avis qui dit la plus grande taille, celle d'une grenade, et l'autre avis qui dit la plus petite taille, celle d'une petite racine, il n'y a pas d'avis intermédiaire. Évidemment, il n'est pas question de se tromper et penser qu'il faut ici qu'il y ait un trou qui laisse passer du liquide dans un sens ou dans l'autre, puisque cette taille n'est valable que pour des récipients qui sont faits pour du liquide et pas du tout pour des pots de plantes. Amar Rafrinana Barkaana Mishmei de Rabbi Eliezer. Rafrinana Barkaana a dit au nom de Rabbi Eliezer, Klicheres Shiuro Kemotzi Zetim. Un récipient de poterie est purifié s'il a un trou qui laisse passer une olive. Umar Kshisha Bere de Rabba Mesayemba Mishmei de Rabbi Eliezer. Et Mark Shisha, fils de Rabba, complète ses propos au nom de Rabbi Eliezer en disant Vehareen ki kle glalim ou kle avanim ou kle adama. Et ces objets de poterie qui ont un trou qui laisse passer une olive sont comme des objets fabriqués avec des excréments d'animaux, ou des objets de pierre ou des objets de terre non cuites, she'en mekablin tuma l'homme divrei Torah et l'homme divrei Sofrim, qui ne deviennent pas impurs ni de Horaïta ni de Rabbanan. D'après cet avis, même si on a désigné le récipient pour des grenades, il ne devient pas impur, contrairement à l'avis de Rava au daf précédent. Ulinyan samit patil, et à propos du récipient fermé d'un couvercle dans la tente du mort, il protège son contenu, achi ifrad rubo, tant que la majorité n'est pas détruite. Nous avons fini le 10e perek de Shabbat Bezrat Hashem, Adranala Hamatznia. Le 11e perek de Shabbat parle toujours du travail de portée. Par contre, ici, la question n'est pas quelle chose portée a de l'importance, mais plutôt de quelle façon il y a cette transgression. C'est en quelque sorte la suite du premier perek, plus exactement de la première partie du premier perek. Commençons la Mishnah. Hazorek mershut hayachid lershut harabim. Celui qui lance quelque chose d'un lieu privé vers un lieu public. Mershut harabim lershut hayachid. Ou alors qu'il lance quelque chose d'un lieu public vers un lieu privé, Chayav, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Il n'y a donc pas de différence entre celui qui lance un objet d'un lieu à l'autre et celui qui transporte, qui porte un objet d'un lieu à l'autre. Mershut hayachid lershut hayachid ou shut harabim be'emtsa. Par contre, celui qui lance d'un lieu privé vers un autre lieu privé en passant par le lieu public. Rabbi Akiva mechayev. Rabbi Akiva dit qu'on a toujours l'obligation d'apporter un sacrifice, le Chachamim potrin et Chachamim exempte. Les Chachamim qui exemptent dans le cas où on a lancé d'un lieu privé vers un autre lieu privé en passant par le lieu public expliquent. Ketzad commence là. Shtig zustraot zu keneged zu birshut harabim. S'il y avait deux balcons qui ont le statut de lieu privé l'un en face de l'autre dans un lieu public, il y a donc la largeur du lieu public qui passe entre les deux balcons. Hamoshit vehazorek mizu lezu patour. À la fois celui qui tend un objet et celui qui lance un objet d'un balcon à l'autre est exempté, puisqu'il n'y avait pas de travail de Lévim qui consistait à passer d'un lieu à l'autre en travers de la rue. Hayushten bidyuta achat. Par contre, si ces deux balcons étaient au même étage, sur le même côté de la rue, Hamoshit chayav ve'azorek patour, celui qui tend d'un balcon à l'autre a l'obligation d'apporter un sacrifice, et celui qui lance d'un balcon à l'autre est exempté, comme Chachamim a dit plus haut dans la Mishnah, que celui qui lance d'un lieu privé à un autre lieu privé en passant par un lieu public est toujours exempté. Par contre, ici, on voit que celui qui tend d'un lieu privé à l'autre lieu privé en passant par le lieu public, quoiqu'il n'ait rien posé dans le lieu public, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Pourquoi? Shekach haïta avodat alvim, car c'est ainsi que se faisait le travail des Lévim. Les fils de Merari qui transportaient les poutres du Mishkan sur des chariots, les chariots qui avaient la hauteur et la largeur nécessaires pour avoir le statut d'un lieu privé, se trouvaient dans le lieu public. Shteh agalot zu acharzu birshut harabim. Il y avait deux chariots l'un derrière l'autre dans le lieu public. Il y en avait un qui était près de l'emplacement du Mishkan et l'autre plus loin. Ils étaient donc disposés dans la longueur de la rue. Moshitin akrashim mizu lezu avalo zorkin. Les Lévim tendaient les poutres du Mishkan d'un chariot vers l'autre. C'est-à-dire qu'on mettait d'abord dans le premier chariot qui était près de l'emplacement du Mishkan. Et de là-bas, on tendait les poutres vers l'autre chariot. Il y avait un espace de lieu public, de la longueur du lieu public, entre les deux chariots qui ont le statut de lieu privé. C'est pourquoi celui qui tend d'un balcon vers l'autre dans la longueur de la rue a l'obligation d'apporter un sacrifice. Par contre, il ne lançait pas les poutres d'un chariot vers l'autre à cause de leur poids. C'est pourquoi celui qui lance un objet d'un balcon vers l'autre dans la longueur de la rue est exempté d'après Chachamim.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Tzadik Vav Amud Bet. Nous avons vu au début de la Mishnah que celui qui lance quelque chose d'un lieu privé vers un lieu public ou d'un lieu public vers un lieu privé a l'obligation d'apporter un sacrifice. Là-dessus, la Guémara demande Merde, Zrika, Tolda de Otsahi. Au fait, le travail de lancer cité dans la Mishnah, qui n'est pas par lui-même un travail de base, puisqu'il ne fait pas partie de la liste des 39 travaux cités dans le 7e Pérec. C'est donc sans doute un dérivé du travail de porter, du travail de sortir quelque chose en l'apportant. C'est le 39e de la liste des 39 travaux. Hotsa gufa hechaktiva. Là-dessus, l'Agmara demande, où est-ce que le travail de sortir en portant lui-même est dit dans la Torah? Tosfot demande là-dessus, comment se fait-il que pour ce travail de base de portée, on recherche que ce soit dit explicitement dans la Torah, alors que pour tous les autres travaux de base, il suffit que la chose ait été nécessaire à la construction du Mishkan pour que le travail ait de l'importance et fasse partie de cette liste des 39 travaux. Tosfot explique que, puisque le travail de portée ne change rien à la chose elle-même, il ne fabrique rien de nouveau, ce travail est considéré comme une melacha groua, c'est-à-dire un travail inférieur, et s'il n'avait pas été dit explicitement dans la Torah, on n'aurait pas dit que ça fait partie de la liste des travaux importants, quoique c'était nécessaire à la construction du Mishkan. La question de la Gemara est donc, où est-ce que ce travail de base est dit explicitement dans la Torah? Amar Rabbi Yochanan de Amar Kra, Rabbi Yochanan dit, car il est dit dans le verset, Vayetzav Moshe vayaviru kol bamachane. Moshe a ordonné, ils ont fait passer la proclamation dans le camp d'arrêter d'apporter du matériel pour la construction du Mishkan. On va voir tout de suite dans la Gemara que c'était un jour de Shabbat. La Gemara explique. Moshe hechan haveyativ bemachane levia. Où est-ce que Moshe était assis? Où est-ce qu'il se trouvait? Dans le camp des Lévites. Ou machane levia reshut harabim havae. Et le camp des Lévim est un lieu public, puisque tout le peuple fréquentait cette partie du camp pour venir voir Moshe. C'était donc un lieu public. Vekamar lehu l'Israël, lotafiku vetitu, mirshut hayachid didchu, lirshut harabim. Et Moshe disait au peuple d'Israël, ne sortez pas pour apporter les dons de vos lieux privés, c'est-à-dire de vos tentes, vers le lieu public. La Gemara demande, Umimai de Beshabbat Kae, Dilma Bechol Kae. Et d'où savons-nous que cette proclamation a eu lieu un jour de Shabbat, et que la raison était donc parce qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat? Peut-être que cette proclamation a eu lieu un jour de semaine, et la raison pour laquelle ils ont proclamé d'arrêter d'apporter du matériel pour le Mishkan est, Umishum de Shlima la Melacha, puisqu'il y avait suffisamment de matériel pour la tâche. Kedirtiv, comme il est dit, Vehamlacha haïta dayam vegomer, et le matériel était suffisant pour la construction du Mishkan. D'où savons-nous que c'était un jour de Shabbat et qu'on apprend de là qu'on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat? La Gemara répond, Gamar ha'avara ha'avara miyom akipurim. On établit une analogie entre le mot ha'avara, faire passer, dit ici, et le mot ha'avara, faire passer, dit à propos de Yom Kippour. D'une part, il est dit ici, et ils ont fait passer une proclamation dans le camp. Uktiv Hatam, et il est dit là-bas, à propos du Yom Kippour de Yovel, c'est-à-dire de la 50e année, Ve'avarta shofar teroua, et tu feras passer un son de shofar entrecoupé. Malehalan beyom asur, de même que là-bas, c'était un jour interdit. C'est donc un jour où les travaux sont interdits, le jour de Yom Kippour. Afkan beyom asur. De même ici, cette proclamation d'arrêter d'apporter du matériel pour le Mishkan était un jour interdit, un jour où les travaux sont interdits. C'est donc le Shabbat. C'est de là qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. La Gemara demande, Ashkechan Hotsa. Nous avons trouvé le travail de sortir qui est dit explicitement dans le verset cité. Hachnasa minalan, d'où savons-nous qu'il y a une interdiction, un travail de horaïta, de rentrer quelque chose d'un lieu public vers un lieu privé? La Gemara répond, svarahi, il est logique que ce soit un dérivé. Mirde, mirshut lirshut hu. Au fait, le travail de base de sortir consiste à déplacer un objet d'un domaine vers un autre domaine. Mali afuke ou mali yule. Quelle différence y a-t-il entre sortir, entre déplacer un objet d'un domaine vers un autre domaine en le sortant du lieu privé vers un lieu public, ou le déplacer d'un domaine vers un autre domaine en le rentrant du lieu public vers le lieu privé? C'est pourquoi c'est sans doute considéré comme un dérivé de sortir. Mihu otsa'a varnasa tolda, cependant, le travail de sortir est considéré comme un travail de base, alors que le travail de rentrée n'est qu'un dérivé de ce travail de base. La Gemara demande « Umirde aha michayev veaha michayev ». Mais au fait, pour le travail de sortir, il a l'obligation d'apporter un sacrifice, et de même, pour le travail de rentrer, il a aussi l'obligation d'apporter un sacrifice. Comme nous avons vu dans la première Mishnah de la Maseret, qu'à la fois celui qui a sorti de la maison vers le lieu public, ou celui qui a rentré du lieu public vers la maison, a l'obligation d'apporter un sacrifice. Dans ce cas, la Gemara demande « Amai karila hay av, v'amai karila hay tolda. » Pourquoi est-ce que le travail de sortir est considéré et nommé un travail de base, alors que le travail de rentrée est considéré comme un dérivé du travail de base? Il n'y a pourtant pas de différence entre le travail de base et son dérivé. Tous devraient être considérés comme des travaux interdits le Shabbat pour lesquels on a l'obligation d'apporter un sacrifice. Pourquoi cette distinction entre le travail de base et son dérivé? La Gemara répond « Nafka mina ». La différence qu'il y a entre ce travail de base et son dérivé, d'ailleurs cette différence est valable pour tous les travaux de base et leurs dérivés, « Dei avid shte avot be'ade hadade »« Inami shte toldot be'ade hadade » car s'il a effectué deux travaux de base en même temps, c'est-à-dire dans le même oubli, ou alors qu'il a effectué deux dérivés de travaux de base différents dans le même oubli en même temps, Michaïev Tarté, il a l'obligation d'apporter deux sacrifices différents, puisque c'était des travaux de base différents. Vi avid av vetoldadide, lo Michaïev elachada. Alors que dans le cas où il a fait le travail de base et son dérivé, le dérivé de ce travail de base même, il n'a l'obligation d'apporter qu'un seul sacrifice si c'était dans le même oubli. Voilà la différence qu'il y a entre le travail de base et un dérivé. La Gemara demande « Où le Rabbi Eliezer de Michaïev Atolda Bimkom Av ?» Mais d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'on a l'obligation d'apporter un sacrifice pour le dérivé en présence de son travail de base même. C'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer, si on a effectué un travail de base et son dérivé, par exemple le travail de base de sortir et son dérivé, celui de rentrer dans le même oubli, on a l'obligation d'apporter deux sacrifices. D'après lui, Amai karula av v'amai karula tolda. Pourquoi est-ce que le travail de base est considéré comme un travail de base alors que l'autre travail est considéré comme un dérivé? La Gemara répond Harda abayi bemishkan chashiva karila av. Les travaux qui étaient importants pour la construction du Mishkan sont nommés des travaux de base. Harda lo abayi bemishkan chashiva lo karila av. Alors que les travaux qui n'étaient pas importants pour la construction du Mishkan ne sont pas nommés des travaux de base. C'est ça en fait toute la différence entre un travail de base et son dérivé d'après Rabbi Eliezer. Inami, ou alors il y a une autre différence qui est valable pour le travail de portée. Herdektiva kari'av, ce travail, le travail de sortir qui est dit explicitement dans la Torah comme nous avons vu plus haut, est nommé un travail de base. Veid loktiva kari tolda, alors que le travail de rentrée qui n'est pas écrit explicitement dans la Torah est nommé un dérivé. La Gemara dit vehaditnan. Est-ce que nous avons appris dans une Mishnah plus loin une autre partie du travail de portée? Hazorek arba amot bekotel, que celui qui se tient dans un lieu public et qui lance sur une distance de 4 coudées contre un mur. Il s'agit d'une figue collante qui s'est collée au mur au bout de 4 coudées. Qu'elle a traversé dans le lieu public. Le malam et asarat fachim kezorek ba'avir, si la figue s'est collée au mur au-dessus de dit fachim, au-dessus du sol, c'est comme s'il avait lancé en l'air, puisque ça ne fait pas partie de l'espace du lieu public. L'espace du lieu public n'atteint que dit fachim au-dessus du sol, c'est pourquoi il est exempté. Le matam et asarat fachim kezorek ba'aret, alors que si la figue s'est collée en dessous de dit fachim au-dessus du sol, c'est comme s'il avait lancé par terre et il a l'obligation d'apporter un sacrifice comme on va voir tout de suite. La face du mur n'est pas considérée comme un endroit à part, ça fait partie du lieu public jusqu'à une hauteur de dit fachim, contrairement à un poteau qui est dans un lieu public puisque c'est une surface à part. À partir du moment où ce poteau a au moins 3 fachim au-dessus du sol, ça ne fait plus partie du lieu public, sauf si ça a une hauteur de 9 tfachim exactement, comme on avait déjà vu. En tout cas, s'il a lancé contre le mur en dessous de 10 tfachim, c'est considéré comme s'il avait lancé par terre. Ve'azorek ba'aretz arba amot chayav, et celui qui lance par terre sur une distance de 4 coudées dans la rue, a l'obligation d'apporter un sacrifice. Fin de la Mishnah. Là-dessus, la Gemara demande « Zarak arba amot birshut arabim minalan de Michayev ». D'où savons-nous que celui qui a lancé sur une distance de 4 coudées dans un lieu public a l'obligation d'apporter un sacrifice? En d'autres termes, d'où savons-nous que lancer ou déplacer un objet sur une distance de 4 coudées dans un lieu public fait aussi partie du travail de base de « hotza mirashut l'rashut » de déplacer d'un lieu vers l'autre, qui est le 39e des travaux de base dans le 7e Pérec. Amar Rabbi Asha, Rabbi Asha a dit, on apprend cela du travail de la construction du Mishkan. Sheken Orge Yeriot Zorkin Machaten Zelazé. Puisque les tisseurs de teinture se lançaient leurs aiguilles l'un à l'autre dans le lieu public, apparemment sur une distance de 4 coudées. La Gemara demande, Orgin Machatin Lama Lehu. Pourquoi est-ce que les tisseurs avaient besoin d'aiguilles? Et là, Sheken Tofre Yeriot, Zorkin Machaten Zelazé. Il faut plutôt dire que c'était les brodeurs de teinture qui se lançaient leurs aiguilles l'un à l'autre sur une distance de 4 coutées. La Gemara demande, Vedilma Gabe Hadade Havuyatve. Mais peut-être que les brodeurs de teinture étaient assis l'un à côté de l'autre dans la même coudée et qu'ils se passaient les aiguilles l'un à l'autre sans les lancer du tout. L'Agma répond, non, ce n'est pas possible qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, puisque Matu Hadade Bemachatin, dans ce cas, ils se frapperaient l'un l'autre avec leurs aiguilles. C'est pourquoi ils étaient forcés d'être assis l'un loin de l'autre, et quand ils se lançaient les aiguilles, c'était sans doute sur une distance de 4 coudées. L'Agma demande, Dilma Betor Arba Havuyatve, mais on peut toujours dire qu'ils étaient peut-être assis dans les 4 coudées l'un de l'autre et pas aussi loin l'un de l'autre. On ne peut donc pas apprendre d'ici que celui qui lance sur une distance de 4 coudées dans un lieu public a l'obligation d'apporter un sacrifice, c'est peut-être pas un travail. Et là, Amar Rav Chisda, c'est pourquoi Rav Chisda a dit qu'on apprend ce travail de déplacer ou de lancer un objet sur une distance de 4 coudées dans un lieu public d'un autre détail de la fabrication des teintures du Mishkan. Sheken, Orge Yeriot, Zorkin Bouchyar Bieria, car les tisseurs de teinture lançaient la navette qui contient la canette de la trame dans la teinture, c'est-à-dire entre les fils de la chaîne de la teinture, puisque la largeur des teintures était de 4 coudées, lorsqu'ils lançaient la navette, c'était au moins sur une distance de 4 coudées dans le lieu public. C'est de là qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de lancer sur une distance de 4 coudées dans le lieu public. La Gemara demande « Vehalo ogdo beyado ». Mais pourtant, lorsqu'il lance la navette, l'attache de la navette, c'est-à-dire le fil de la trame, est toujours dans sa main. Et si on lance quelque chose en retenant l'attache chez soi, ce n'est pas considéré comme déplacer la chose d'un endroit vers l'autre, puisqu'elle est toujours attachée au début des 4 coudées. Comment se fait-il qu'on peut apprendre d'ici celui qui lance quelque chose sur une distance de 4 coudées? La Gemara répond « Benisra batra ». On apprend cela de la dernière fois où il lance la navette, c'est-à-dire au dernier fil. Là, le fil se termine et la navette s'échappe. C'est là qu'on considère qu'il a déplacé la navette sur une distance de 4 coudées. La Gemara demande, « Veha bemakom ptur kaazla ». Mais pourtant, la navette se déplace dans un endroit neutre, entre les parois des fils de chaîne qui sont des surfaces séparées du lieu public et qui ont un statut d'endroit neutre, car elles n'ont pas 4 fachim sur 4 fachim de large. Si ça passe par un endroit neutre, ce n'est donc pas une preuve pour celui qui lance sur une distance de 4 coudées dans un lieu public. Comment est-ce qu'on peut apprendre de là l'interdiction de lancer un objet sur une distance de 4 coudées dans un lieu public? Et là, Sheken Orge Yeriot, Zorkin Bouchyar Lesho Alehen, il faut donc dire qu'on apprend cette interdiction de lancer sur une distance de 4 coudées dans un lieu public, car les tisseurs de teinture se lançaient la navette à celui qui voulait l'emprunter. C'est-à-dire que, hors du travail, ils avaient besoin de s'emprunter du matériel, et c'est pourquoi, s'ils devaient se lancer une navette de l'un à l'autre, c'était sur une distance de 4 coudées, et cette fois dans le lieu public, c'est de là qu'on apprend cette interdiction. La Gemara demande « Vedilma gabe hadadeh avuyatve ». Peut-être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre et qu'ils pouvaient se passer la navette de l'un à l'autre sans la lancer. Comment savons-nous qu'ils étaient loin l'un de l'autre? La Gemara répond « Matu hadadeh bechafat ». C'était pas possible qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, car dans ce cas, ils se frapperaient l'un l'autre en tirant sur le fil de la trame au bord du tissu. C'est pourquoi il était forcé qu'ils soient éloignés l'un de l'autre. La Gemara demande « Vedilma shalchufe havu meshalchefe ». Mais peut-être qu'ils étaient décalés l'un de l'autre pour ne pas se frapper mutuellement, mais ils étaient toujours un à côté de l'autre et ils pouvaient se passer la navette de l'un à l'autre sans la lancer sur une distance de 4 coudées. Vetu misheile mehadade. Et de plus, est-ce qu'ils s'empruntaient le matériel l'un de l'autre? Vetania luda. Nous avons pourtant appris dans une braïta de luda. Il est dit dans le verset ish ish mimelarto asher hema osim. Chacun de son travail qu'il faisait, il apprend de là mimelarto huose. Chacun faisait avec son travail, c'est-à-dire avec son propre matériel. Veeno ose mimelachet ravero. Et il ne faisait pas avec le matériel de l'autre. C'est donc qu'il ne se lançait pas du tout de matériel de l'un à l'autre. Vetu et de plus. Si tu veux dire que tout l'enseignement de l'interdiction de déplacer sur une distance de 4 coudées dans un lieu public et du fait de lancer qui était d'après cela nécessaire dans la fabrication du Mishkan. Ma'avir arba amot birshut arabim minalan de mechayev. D'où savons-nous que celui qui porte sur une distance de 4 coudées dans un lieu public sans lancer a aussi l'obligation d'apporter un sacrifice? La Gemara dit « Ela kol arba amot birshut arabim gmara gmirela ». Mais tous les détails de l'interdiction de déplacer sur une distance de 4 coudées dans un lieu public est un enseignement appris par tradition depuis Moshe du Mont Sinaï. Il n'y a donc plus du tout de question. Dans la parashat Shlach, la Torah raconte que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, quelqu'un a ramassé du bois le Shabbat et a été mis à mort. Quel travail de base a-t-il fait? C'est ce qu'on va voir ici. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, Rav Yuda a dit au nom de Shmuel, « Mekoshesh ma'avir arba amot birshut harabim hava » Le ramasseur de bois a effectué le travail de le transporter sur une distance de 4 coudées dans un lieu public. C'est donc que le bois était prêt en fagot avant Shabbat. La seule chose que le ramasseur du bois a fait pendant Shabbat n'est que de déplacer sur une distance de 4 coudées dans le lieu public, et c'est pour ce travail-là qu'il a été mis à mort. Bematnita Tana, dans une braïta nous avons appris, Tolesh Hava. Il a cueilli, coupé ce bois de l'arbre, et c'est pour ce travail de kotzer moissonné qu'il a été mis à mort. Ravacha Berbi Yaakov Amar, Ravacha Rabbi Yaakov a dit, Me'amer Hava, il a rassemblé le bois qui était éparpillé par terre, il a effectué le travail de base de Me'amer, mettre en gerbe, c'est donc que le bois était déjà coupé avant Shabbat, et c'est pour ce travail de mettre en gerbe qu'il a été mis à mort. La Gemara demande, le Mai Nafkamina, quelle différence y a-t-il entre ces différentes interprétations? La Gemara répond, le Ked Rav, au sujet de l'enseignement de Rav. D'Amar Rav, Matsati Megilat Starim be Rabbi Chia. Car Rav a dit, j'ai trouvé un manuscrit caché chez Rabbi Chia. On n'avait pas encore le droit d'écrire la Torah orale. Il n'écrivait que des enseignements peu connus qui risquaient d'être oubliés et cachait ces manuscrits. Vekatuv be, ici Ben Yuda Omer, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, Veino Chayav Ela Achat. Et il était écrit dans ce manuscrit, ici Ben Yuda dit, les travaux de base de Shabbat sont au nombre de 39 et il n'est passible qu'une fois. Pour l'instant, on pense qu'il s'agit de sacrifice de Khatat, qu'il n'a donc l'obligation d'apporter qu'un seul sacrifice de Khatat, même s'il a effectué tous les travaux interdits le Shabbat. La Gemara demande « Achat vetulo » Est-ce qu'il n'a l'obligation d'apporter qu'un seul sacrifice s'il a effectué tous les 39 travaux de base de Shabbat? Vehatnan, nous avons pourtant appris dans une Mishnah du 7e Perek, Avot melachot arbaim chaser achat. Les travaux de base de Shabbat sont au nombre de 39, qui sont d'ailleurs cités explicitement par la suite de la Mishnah. Ve'avinanba minyana lamali. Et on s'est posé une question, pourquoi est-ce que le Tana doit nous dire le chiffre de 39? On n'a qu'à les compter tout seul. Ve'amar Rabbi Yochanan, shimasan kulam be'elem echad, chayab al kol achat ve'achat. Et Rabbi Yochanan a dit ce que le Tana veut nous enseigner en y disant le chiffre de 39, et que si une personne a effectué tous les travaux de base de Shabbat dans le même oubli, il doit apporter un sacrifice par travail de base. C'est donc un total de 39 sacrifices s'il a effectué tous les travaux de base. Comment est-ce que ici Ben Yehuda peut nous dire qu'il n'a qu'un seul sacrifice à apporter s'il a effectué tous les travaux de base? L'Agmara répond, Eima eno chayav alachat mehem. Il faut plutôt dire que ce qui était écrit dans ce manuscrit est qu'il n'est pas passible de peine de mort pour l'un de ces travaux. On ne sait pas quel travail de base est exempté de peine de mort. C'est à ce propos qu'il y a une différence entre les différentes interprétations de quel travail avait effectué le ramasseur de bois. Rav Yehuda pshitale d'amavir chayav, pour Rav Yehuda qui dit que le travail qu'il a effectué est porter le bois sur une distance de 4 coudées dans le lieu public, il est donc évident que celui qui porte sur une distance de 4 coudées est mis à mort. Umatnita pshitale d'etolesh chayav, et pour la braïta qui dit que le travail qu'il a effectué est de cueillir, il est donc évident que celui qui cueille pendant Shabbat est mis à mort. Veravacha bar Yaakov pshitale de me'amer chayav, et pour Ravacha bar Yaakov qui dit que le travail qu'il a effectué est de mettre en gerbe, il est donc évident que celui qui met en gerbe est passible de peine de mort. À ce propos, il n'y a pas de question. Mar savar hamiat lo mesavka, l'un pense que sur ce travail, il n'y a pas de doute, Umar Savar Hamiat Lo Mesavka, et l'autre pense que sur l'autre travail, il n'y a pas de doute. C'est ça la différence qu'il y a entre ces différentes interprétations. Dans la paracha de Pinchas, il est dit que les filles de Tzlofrad qui n'avaient pas de frères ont réclamé la part de leur père dans la terre d'Israël. Elles ont précisé que leur père était mort par sa propre faute et n'avait pas participé aux révoltes des masses qui avaient fini par des fléaux. Cependant, il n'est pas dit par quelle faute Tzlofrad était mort. On va voir une discussion à ce sujet. Tanou Rabbanan, nous avons appris dans une braïta, Mekoshesh zet Tzlofrad, le ramasseur de bois était précisément Tzlofrad. Vechen ou Omer, car il est dit d'une part dans la parashat Shlach, Vayu bnei Israël bamidbar, Vayimtsou ish vegomer. Et les enfants d'Israël étaient dans le désert. Il est donc dit que c'était dans le désert, et ils ont trouvé un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Oula Alan ou Omer, et plus loin dans la parashat Pinchas, il est dit, Avinu met bamidbar, les filles de Tzofrad ont dit, notre père est mort dans le désert. Il y a donc une analogie entre le mot désert qui est dit à propos du ramasseur de bois, et le mot désert qui est dit à propos de Tzofrad. Malahalan Tzofrad, Afkan Tzofrad. De même que plus loin dans la parashat Pinchas, il s'agit de Tzlofrad, ainsi dans la parashat Shlach, il s'agit aussi de Tzlofrad. Divrei Rabbi Akiva, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva ben kach ou ben kach ata atid liten et adin. Rabbi Yehuda ben Betera s'est adressé à Rabbi Akiva et lui a dit, Akiva, quoi qu'il en soit, tu auras des comptes à rendre. Im kidvarecha, si tu as raison que le ramasseur de bois était effectivement Tzlofrad, A Torah kisato ve'ata megale oto, la Torah l'avait caché, la Torah n'a pas dit par quelle faute est-ce que Tzlofrad est mort et n'a pas dit quel était le nom du ramasseur de bois, et toi tu l'as dévoilé. Vimlav, et si tu as tort, ata motzilaz aloto tzadik, tu sors une rumeur mensongère sur ce tzadik, sur ce juste.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.